France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour de réconciliation ce soir.
Today we have struck. This landmark deal with the EU.
Aujourd'hui, nous avons conclu cet accord historique avec l'Union, un nouveau partenariat entre une Grande-Bretagne indépendante et nos alliés en Europe. Il marque une nouvelle ère dans nos relations. Cet accord est gagnant. Gagnant, c'est Keir Starmer qui parle lors de la conférence de presse qu'il a partagée avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa. Bonsoir, Pauline Schnapper.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Qu'est-ce qu'on dit? On entend beaucoup le mot de reset, c'est-à-dire on appuie sur le bouton réinitialisation, on éteint l'ordi et on le rallume. C'est ça qui est en train de se passer entre l'Union et le Royaume-Uni ou pas?
Oui, là c'est quand même un vrai tournant annoncé depuis des mois. C'est pas
oui, parce qu'on a négocié longtemps, ce dont on va parler.
On a négocié longtemps et puis avant cela, le Parti travailliste et Keir Starmer en particulier annonçaient ce fameux reset depuis les élections de juillet dernier et la campagne qui l'avait précédée. Donc c'est un vrai changement, disons que, pour faire court, après des années de détricotage, pour la première fois, on a un accord qui vise à recréer du lien, plutôt qu'à le défaire.
C'est plus qu'une alliance de circonstances, à votre avis, sur les questions de sécurité et de défense, sur lesquelles, bien sûr, on viendra. Ça va au-delà de ça?
Oui, ça va au-delà de ça. Alors, c'est vraiment le point essentiel, et la guerre en Ukraine a poussé fortement les gouvernements des deux côtés dans cette direction, mais ça va au-delà, notamment pour ce qui concerne peut-être un certain nombre de dossiers plus précis sur lesquels on va revenir
évidemment, ouais.
Et en particulier l'affaire des échanges en matière agroalimentaire, qui là pourrait vraiment avoir des conséquences très concrètes.
Alors on va effectivement y aller. Je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur la sécurité et la défense. On sent quand même une forme de méfiance, j'allais dire, de part et d'autre, peut-être du côté de l'Union, notamment sur cette fameuse histoire des 150 milliards d'euros, avec une Europe qui dit, enfin oui, il ne faudrait pas non plus que les Britanniques en profitent au maximum non plus.
Oui, les Français en particulier.
Oui, absolument.
Dit ça. Oui, pour l'instant, ce sont des déclarations de principe qui actent finalement une réalité depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que de fait, et sans qu'on en parle beaucoup, les Britanniques et les Européens se sont beaucoup rapprochés déjà et coopèrent sur tout ce qui concerne le soutien à l'Ukraine.
Et d'accord pour les échanges, d'accord pour les exercices militaires,
donc, voilà,
pour l'argent, c'est moins sûr.
C'est ça. Donc ça donne un cadre, disons, qui formalise ce qui existe déjà depuis 3 ans. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et en particulier, le gros sujet qui était l'accès possible des Britanniques au fameux fonds européen qui fait rêver toutes les industries militaires européennes, y compris les Britanniques, n'est pour l'instant pas du tout fait. Donc on annonce des négociations et on sait que les Français là-dessus font partie des pays qui ont été un peu en arrière de la main, disons, sur la question.
Mais du coup, à l'issue de cet accord, Pauline Schnapper, est-ce qu'on dit que quelqu'un a la main? Est-ce que c'est l'Europe qui en a profité peut-être aussi pour revenir sur un certain nombre de choses qui étaient mal ficelées? Je pense à la pêche, par exemple. Ou est-ce que c'est plutôt l'Union, plutôt le Royaume-Uni qui en profite sur certains sujets pour revenir par la fenêtre? Est-ce que quelqu'un a la main là-dedans ou pas? Starmer, évidemment, il dit gagnant-gagnant.
Mais c'est vrai, je veux dire, c'est dans le genre, dans ce style de négociation, il est vraiment difficile de dire qui a gagné, qui a perdu, parce que le Brexit, c'était une perte pour tout le monde, en réalité. Et donc, tout ce qui rapproche les Britanniques de l'Union européenne, c'est un gain pour tout le monde. Après, les différents partenaires recherchaient des choses différentes. C'est-à-dire que les priorités des uns n'étaient pas forcément les priorités des autres. Typiquement, la pêche, c'était une priorité française et aussi danoise et hollandaise. Alors que pour les Britanniques, l'accès au marché européen, et enfin la facilitation des contrôles douaniers pour les produits alimentaires était peut-être plus importante.
Après, ce qui est intéressant quand on regarde, c'est de voir qu'il y a des points qui sont effectivement plus sensibles. Il y a des endroits où, typiquement, les Britanniques ne veulent pas se risquer. On va y venir notamment sur la libre circulation. Un mot, effectivement, sur la pêche. Alors là, pour le coup, ça s'appelle une concession, non? Parce que l'accord qui était censé prendre fin à la fin 2026, renouvelé pour 12 ans, Oui. C'est,
Alors là, c'est clairement une concession britannique, et c'est d'ailleurs là-dessus que depuis le milieu de journée, les oppositions attaquent le Premier ministre, puisque donc l'accord qui avait été trouvé, c'était un accord pour 4 ans, et au départ de la négociation, les Britanniques voulaient continuer à faire du court terme, comme ça, à chaque fois, puisque à chaque fois, c'est l'occasion d'obtenir des avantages. Alors que les Français en particulier voulaient, au contraire, ne pas avoir à retourner à la table des négociations de façon trop régulière. Et donc, le compromis, si on peut dire, qui a été trouvé de 12 ans, c'est clairement, alors là, pour le coup, une victoire française, si on veut parler dans ces termes-là. En tout cas, c'est proche de ce que souhaitait la France.
En échange d'une libre circulation, par exemple, qui, pour l'instant, reste en pointillé, y compris d'ailleurs celle des étudiants.
Alors, on ne parle pas de libre circulation, terme. Alors, il ne faut absolument pas parler de libre circulation. Et de fait, ce n'est pas de la libre circulation.
On va dire mobilité. Donc, mobilité des jeunes entre 18 et 30 ans.
C'est la possibilité pour les jeunes de passer... Alors, on ne sait pas encore très bien, parce que pour l'instant, il y a le principe d'une négociation qui a été actée, mais il n'y a rien de concret. Donc, quelque chose entre 1 et 3 ans. La possibilité pour les jeunes européens d'aller travailler ou faire des études au Royaume-Uni et inversement. Quelque chose qui... pour le coup, est vraiment une demande européenne et pas du tout britannique, ou beaucoup moins britannique.
Mais on est dans une ligne rouge, là, quand même, parce que...
Alors, oui et non.
Ça veut dire immigration aux yeux de la droite
c'est ça.
Britannique.
Ça n'est pas de la libre circulation, puisque ces gens n'auront pas le droit de rester. Mais ça a été présenté comme tel par l'opposition, et c'est perçu par les Brexiteurs les plus ardents comme une faille dans la fin de la libre circulation. Mais quand Starmer dit « mais ça n'est pas ça », c'est vrai, ça n'est pas de la libre circulation. Et surtout, pour l'instant, il n'y a rien. On s'est mis d'accord pour continuer à négocier, puisque les négociations, en fait, ont lieu depuis des mois.
Alors, j'ai bien compris que libre circulation, c'est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer, tout comme on n'a pas le droit de dire union douanière, effectivement, parce que sinon, c'est la gousse d'ail et le crucifix. Quand même, il y a une vraie porte qui a été ouverte sur les produits alimentaires et agricoles, en s'alignant sur un certain nombre de normes de Bruxelles. Suppression également des formalités administratives. Là, est-ce qu'on se dit que c'est une vraie victoire des Britanniques, et que même c'est un soulagement pour les entreprises britanniques? Parce que ce qu'on a vu au début du Brexit, c'était bien ça, c'était des produits bloqués à la frontière pour des histoires de paperasserie.
Tout à fait. Alors oui, de ce point de vue-là, oui, mais... il y a quand même deux aspects qui sont vraiment des vraies concessions du côté britannique. Le premier, c'est l'alignement total sur la réglementation européenne. Et ça, alors là, pour le coup, les Brexiteurs ont un argument qui n'est pas complètement faux quand ils disent c'est une trahison du Brexit. Ouais. Donc ça, c'est quand même une très grosse concession. Et l'autre, c'est la Cour européenne de justice, qui sera la dernière instance qui tranchera en cas de litige. Et ça aussi, c'était un peu une ligne rouge, en tout cas pour les conservateurs et les Brexiteurs de Nigel Farage.
Mais cet accord-là, cette partie-là de l'accord, est-ce que ce n'est pas exactement la démonstration justement des limites du Brexit, voire de l'échec du Brexit, en fait?
Mais bien sûr. Bien sûr. Depuis le départ, tous les économistes prévoyaient ce qui s'est passé, c'est-à-dire que même si vous avez en théorie un libre-échange, et c'est le cas pour les marchandises entre le continent et le Royaume-Uni, vous avez des contrôles bureaucratiques, des contrôles sanitaires, vétérinaires, etc., qui, en pratique, rendent ces échanges beaucoup plus compliqués. Et il y a toute une série de petites entreprises, en particulier britanniques, qui ont mis la clé sous la porte depuis le Brexit à cause de ça, qui exportaient en Europe et pour lesquelles la bureaucratie était devenue beaucoup trop lourde, beaucoup trop chère.
Après, Pauline Schnapper, on a un peu l'impression que Starmer, il reste très prudemment au milieu du guet. En fait, il ne faut pas oublier qu'on est à 10 jours d'un accord qui a été passé avec les Américains, par ailleurs, notamment autour du bœuf. Mais ce qui est intéressant dans cet accord-là, c'est que justement, on ne fait pas rentrer tout et n'importe quoi à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, tout ce qui est bœuf aux hormones va rester aux États-Unis. Dans le même temps, on fait attention aussi à ce qui va aux échanges européens, c'est-à-dire que là aussi, on se met d'accord avec les normes européennes. En gros, c'est le bœuf, l'argent du bœuf et aussi la crémière pour les Britanniques.
Pas tout à fait, parce que l'accord qui a été signé avec les États-Unis n'est pas du tout un accord de libre-échange. C'est un accord qui est très limité, qui a réussi à faire baisser un petit peu des droits de douane sur un certain nombre de produits automobiles.
Ça s'appelle d'ailleurs un accord commercial limité.
Voilà, c'est pas du tout un accord de libre-échange, et Starmer a été très soucieux de ne rien faire qui pourrait empêcher justement un rapprochement avec l'Union européenne. Donc en termes de priorité, si vous voulez, il n'y a pas de doute sur le fait que le gouvernement britannique actuel met l'accent sur le rapprochement avec l'Union européenne et pas avec les États-Unis.
Alors, jusqu'à quel point il prend un vrai risque politique en entrouvrant cette porte-là, Keir Starmer ? Parce qu'on sait bien qu'il y a une vraie poussée de la droite, personnifiée par Nigel Farage, Reform UK, qui est en train de remplacer la droite aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs, je fais un aparté, est-ce que désormais la droite au Royaume-Uni, c'est Reform UK ? Au-delà même des conservateurs.
C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est en tout cas eux qui ont le vent en poupe, très clairement, et qui pourraient bien bénéficier d'un mode de scrutin qui, jusqu'à il y a peu de temps, leur était très défavorable et qui est en train de basculer en leur faveur. Ça, c'est un changement très, très important. Et effectivement,
électoralement, est-ce que c'est plus dangereux pour Starmer de mettre en colère Reform UKIP, qui de toute façon est toujours en colère, ou d'aller dans l'autre sens pour les travaillistes ?
Alors, c'est un gros problème, un gros dilemme pour le gouvernement actuel, et ça explique leur prudence vis-à-vis de l'Union européenne. Sur le fond, ils pensent comme vous et moi, et ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il faudrait évidemment se rapprocher encore plus de l'Union européenne. Il faudrait au minimum rentrer dans l'union douanière et probablement dans le marché unique, mais il est impensable de le dire. Et le gouvernement regarde en permanence derrière son épaule les réactions de Reform. Ce qu'il espère clairement, c'est que l'électeur britannique de base n'est pas très intéressé par le détail des accords phytosanitaires avec l'Union européenne, qui sera content de voir des produits moins chers sur les étals de ses supermarchés, et que donc la propagande Farage marchera moins bien qu'il y a 10 ans.
Parce qu'est-ce que c'est penser trop vite que de se dire que tous les travaillistes au fond sont anti-Brexit et donc entendent bien qu'on revienne par la fenêtre ? Est-ce qu'on se trompe si on dit ça ?
Non, on se trompe. Alors, on se trompe pas en gros, mais il y a quand même un électorat, en tout cas un ancien électorat travailliste, qui a viré vers Farage et que les travaillistes aimeraient bien récupérer.
Après, c'est le paradoxe très britannique. Hein. En préparant cette émission, je lisais ce sondage qui dit que si on demande aux Anglais s'ils font un programme de mobilité pour les jeunes, ils répondent oui à 70%, ce qui est ce qu'on est en train d'essayer de freiner des cas de fer du côté de Farage. Si on leur demande si le Royaume-Uni est trop éloigné de l'Union, ils disent oui, absolument, à 46%. Et en même temps, tout en mettant Farage très très haut dans les sondages, ça reste difficile à lire quand même.
Le britannique. L'explication de cette contradiction apparente, c'est que les électeurs votent Farage, ne votent plus pour Farage pour des raisons européennes, si tant est d'ailleurs qu'ils aient jamais voté pour lui pour des raisons liées à l'Union européenne, mais pour des raisons qui ont beaucoup plus à voir avec leur mécontentement national et l'immigration.
À suivre, en tout cas avec vous, avec plaisir, Pauline Schnapper, vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La suite ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. C'est un témoignage ce soir édifiant, celui d'un Chinois retenu en Birmanie, contraint par la force de faire des arnaques en ligne. Pour aller jusqu'à 19h, la bande habituelle, c'est Kevin Dufresne d'abord, sous les radars.
Au Royaume-Uni encore, mais bien loin de la politique, on va parler de foot et des adieux après 133 ans de vie commune.
Le monde à 18h50, c'est vous Louise Baudet. Bonsoir Louise.
Bonsoir Fabienne. Pronostics électoraux déjoués ce week-end. L'extrême droite défaite en Roumanie, mais en force en Pologne. On verra pourquoi, c'est important pour toute l'Europe.
Et la BO du monde et Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir, on savait Bruce Springsteen très engagé contre Donald Trump. Le boss va plus loin encore avec sa nouvelle tournée européenne transformée en tribune politique. Ça ne plaît pas du tout au président américain, mais les fans aussi sont divisés.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète commence à peine. Il fait un détour rapide par le Queens à New York avec A Tribe Called Quest. Can I Kick It ? Vous allez identifier le sample, vous l'avez évidemment. C'est celui de Walk on the Wild Side de Lou Reed. Allez.
Like a tribe does. Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force. Why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll
We'll nip up the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove.
Funky behavior. Make a note on the rhythm we gave you. Feel free, drop your pants, yeah, yeah, hey, yeah. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with a player. As you inhale like a breath of fresh air.
Le reportage d'un jour dans le monde est en un témoignage ce soir, un témoignage rare, écoutez bien, celui d'un Chinois pris au piège de trafiquants d'êtres humains en Birmanie. Il va vous raconter comment il se retrouve au milieu de dizaines d'autres, enfermés, battus, contraints à pratiquer des arnaques en ligne. Il s'appelle Xu Bochun, il a pu s'échapper, en parlant il prend des risques parce que les groupes mafieux qui l'ont retenu ont des dizaines de milliers de personnes sous leurs joues. C'est à Sébastien Berriot qu'il s'est confié et qui raconte.
Xu Bochun nous a donné un rendez-vous discret cet après-midi dans un grand parc de Shanghai. Malgré les pressions de la police chinoise, l'homme de 39 ans éprouve un incroyable besoin de raconter cet épisode douloureux de sa vie. En 2023, Bochun est un petit acteur qui gagne difficilement sa vie. Un inconnu se rapproche de lui sur le réseau social WeChat pour lui proposer un second rôle dans une grosse production. Sur place, à Sichuanbana, une ville chinoise située juste avant la frontière birmane, l'acteur se retrouve dans un groupe avec d'autres Chinois et il comprend trop tard que la petite annonce était un piège.
Nos pièces d'identité et nos téléphones portables ont été confisqués. En pleine nuit, des hommes armés de couteaux nous ont obligés à grimper une montagne à pied. Et ensuite, après deux jours de route, on s'est retrouvés dans une maison au nord de la Birmanie, où il y avait déjà 70 à 80 Chinois, tous menottés et surveillés par une quarantaine de mercenaires armés de fusils et de barres électriques.
Bochun comprend vite que cette maison est en fait un centre de tri destiné à alimenter un vaste réseau d'arnaques financières.
Chaque jour, les trafiquants venaient dans la maison pour choisir leur main-d'œuvre. Ils étaient masqués parce qu'il y avait une odeur de sang humain sur place. On est resté menottés pendant 30 jours. Ils nous frappaient avec des bâtons aux fesses et aux jambes, au moins 10 coups chaque jour. J'ai même vu des gens se faire tirer dessus pour avoir résisté.
L'acteur chinois est ensuite choisi par les recruteurs et installé dans un centre de travail.
Je vivais au 4e étage et travaillais au 7e. On avait chacun 4 iPhones sur lesquels on devait gérer 20 comptes Instagram afin d'arnaquer les gens avec de faux investissements dans les crypto-monnaies. On devait contacter au moins 300 personnes par jour, quasiment sans pause, de 10h du matin jusqu'à 2h du matin le lendemain. Ceux qui ne remplissaient pas les objectifs avaient droit à des punitions corporelles.
Bochun a bien pensé à s'échapper à plusieurs reprises, mais impossible et surtout trop risqué.
Ceux qui tentaient de s'échapper étaient vite rattrapés et j'ai vu la punition. On leur enlevait un rein. Les mercenaires montraient ensuite les cicatrices aux autres pour les dissuader. Ceux qui réussissaient à rapporter de l'argent avaient le droit de manger du pangolin, des pattes d'ours et pouvaient aussi profiter de services sexuels avec des femmes russes. Mais si l'employé n'était pas performant, il était revendu pour un prélèvement d'organes.
Et c'est finalement grâce à un ami d'enfance que Bochun réussit à mettre un terme à ce terrible quotidien.
Un jour, lorsque le chef de notre groupe est allé aux toilettes, j'ai réussi à transmettre mon adresse à cet ami. Mais le sauvetage a pris plusieurs mois. Ma mère a dû vendre son appartement et payer 140 000 euros. Mais je suis détruit. Tous mes organes souffrent encore, mes cheveux sont tombés en grande quantité et je fais des cauchemars. J'ai survécu, mais tant d'autres restent piégés. Personne ne se préoccupe de leur sort. C'est vraiment terrible.
Trois mois dans l'enfer birman pour Bochun, qui préfère aujourd'hui ne pas s'étendre sur les conditions du retour dans son pays, marqué par 10 jours de détention en Chine, officiellement pour passage illégal de la frontière, au vu de l'implication de nombreux ressortissants chinois dans ces trafics. Le sujet est considéré comme tabou par le régime de Pékin.
Un témoignage incroyable recueilli par Sébastien Berriot. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Kevin, c'est d'abord au Mozambique que nous sommes touchés lui aussi par la violence djihadiste.
Oui, on parle souvent ici de l'activité des groupes terroristes en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, mais des poches existent un peu partout sur le continent, et notamment donc au Mozambique, pays situé dans le sud-est de l'Afrique. Et c'est particulièrement la province de Niassa qui est concernée, région forestière qui est en partie une réserve naturelle, l'une des plus grandes du continent. Ces dernières semaines, les raids djihadistes y ont fait au moins 10 morts et plusieurs disparus. Attaques revendiquées par le groupe État islamique au Mozambique. Des soldats ont été visés, mais aussi ceux qui travaillent à la protection de la faune et de la flore sur place. Deux agents anti-braconnage ont ainsi été tués. Les locaux des ONG sont aussi pris pour cible. Les activités touristiques sont suspendues. Une dizaine de camps de safari sont à l'abandon, ce qui coûte à l'activité économique de la région. Mais désormais, c'est tout le travail de la réserve en tant que telle qui est menacé, d'après les défenseurs de l'environnement, alors que Niassa a permis de sauver des populations de lions ou encore d'éléphants. Depuis 2017, plus d'un million d'habitants ont été déplacés au Mozambique à cause des groupes terroristes.
Et nous voici en Espagne où l'on manifeste encore contre le surtourisme.
Ah oui, après le ras-le-bol des habitants de Barcelone ou des Baléares, c'est sur les îles des Canaries que les locaux sont descendus dans la rue hier. Avec slogans et pancartes, les Canaries ne sont plus un paradis, pouvait-on lire entre autres. D'après les autorités, ils étaient 15 000 à manifester sur l'ensemble des 7 îles de l'archipel de plus de 2 millions d'habitants. Ils réclament notamment le gel des nouvelles constructions touristiques et la régulation des loyers, car les prix s'envolent et les locaux ont du mal à se loger. Et selon le collectif qui appelait à manifester, le développement du tourisme aux Canaries favorise les promoteurs au détriment de l'environnement. Le tourisme représente plus d'un tiers du PIB de l'archipel et 40% des habitants travaillent dans le secteur.
Et puis nous sommes au Royaume-Uni avec de très beaux adieux.
Ah oui, pour la dernière fois hier, les joueurs d'Everton sont entrés sur la pelouse du Goodison Park, leur enceinte historique. Ça a été le premier grand stade de foot construit en Angleterre en 1892. 133 ans à jouer donc au même endroit pour l'autre club de Liverpool, hein, qui a remporté 9 titres de champion d'Angleterre. Alors il y avait forcément quelques larmes en tribune. Les légendes du club de toutes les époques étaient là. Hein. L'ancien attaquant Wayne Rooney notamment. Et sous le soleil, les Toffees, c'est leur surnom, l'ont emporté 2-0 face à Southampton.
We'll go down in history.
On va rester dans l'histoire comme la dernière équipe à avoir gagné à Goodison, s'est réjoui le gardien Jordan Pickford, qui a remercié les près de 40 000 supporters qui, après le match, ont envahi les rues adjacentes. Une marée bleue qui se retrouvera la saison prochaine dans un nouveau stade flambant neuf et plus grand, situé à 5 km de là. seulement, mais les supporters nostalgiques peuvent se rassurer. Hein. Goodison Park ne va pas disparaître. Au contraire, il devient le nouveau jardin de l'équipe féminine d'Everton. Charge à elle désormais d'écrire la suite de l'histoire.
Quel accent british merveilleux, celui de Pickford. Merci beaucoup, Kevin. Tiens, voilà une qui pourrait remplir un stade aussi. Vous partez avec Lana Del Rey. Bluebird, c'est dans la playlist de France Inter. Et Lana Del Rey sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h, presque 50, c'est Louise Baudet.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Louise, une élection présidentielle peut en cacher une autre. En Roumanie, le candidat pro-européen l'a finalement emporté ce week-end. Scénario inverse en Pologne. La droite ultranationaliste vire en tête du premier tour. Et vous nous expliquez pourquoi la Pologne risque le grand bond en arrière et pourquoi c'est important, surtout pour l'Union européenne.
Oui, pronostic déjoué, comme en Roumanie, mais résultat à l'opposé. Le maire libéral pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski, était donné largement favori. Il est finalement talonné par son rival, Karol Nawrocki, historien, grand admirateur de Donald Trump, soutenu par le Parti National Conservateur Droit et Justice. Il obtient, contre toute attente, presque 30% des voix et se trouve à moins de 2 points de son adversaire. Surtout, il dispose, lui, de réserves de voix, celle de l'extrême droite, le député libertarien Sławomir Mentzen, patron de Confederatia, et l'eurodéputé ouvertement antisémite Grzegorz Braun, obtiennent ensemble plus de 21% des suffrages. Le total des droites extrêmes est à 54% contre 40% pour la coalition pro-européenne.
Donc ça s'annonce très compliqué au second tour. Louise, les pro-européens sont quoi, groggy ?
Ah oui, séchés par ce résultat auquel ils ne s'attendaient pas. Comme partout en Europe, le centre de gravité de la vie politique polonaise s'est déplacé vers la droite. notamment chez les jeunes qui ont voté pour le dégagisme. Les deux candidats d'extrême droite récoltent près de 42% des voix dès 18-30 ans. Trois sujets très polarisants ont marqué la campagne. L'immigration, le soutien aux réfugiés polonais jugés trop généreux et le pacte vert européen accusé de tous les maux. Sur ces trois sujets, la majorité au pouvoir et son candidat Trzaskowski ont donné des gages, mais cela n'a pas suffi. Ça a même peut-être fait fuir l'électorat le plus progressiste. Résultat, une campagne d'entre-deux tours qui s'annonce encore plus brutale entre deux Pologne, l'une libérale et pro-européenne, l'autre nationaliste, ultra-conservatrice et trumpiste.
Et donc, quelles conséquences si le second camp l'emporte ?
Eh bien, au mieux, si l'on peut dire, pour le gouvernement de Donald Tusk, le statu quo. Ça fait un an et demi, en fait, que ces réformes sont contrecarrées par le président polonais sortant, Andrzej Duda, figure de ce parti droit et justice, défait dans les urnes à l'automne 2023, après 8 ans de pouvoir, mais en embuscade. Duda a profité de son droit de veto pour bloquer les réformes gouvernementales. Droit à l'avortement, mariage pour tous, réforme de la justice. Et cela ne va évidemment pas s'arranger si droit et justice remportent l'élection dans 15 jours. Pire, si la victoire est large, le gouvernement sera délégitimé. On pourrait même aller vers des législatives anticipées.
Donc, soit paralysie, soit nouvelles élections avec des conséquences lourdes pour l'Union européenne.
Oui, clairement, la Pologne de Donald Tusk veut incarner un leadership en Europe. Le Premier ministre a le soutien de Bruxelles. Il est de tous les grands rendez-vous, encore il y a 10 jours, dans le train pour Kiev, aux côtés des dirigeants français, allemands et britanniques. En matière de défense notamment, la Pologne est un poids lourd européen qui s'exprimait mezzo voce ces derniers mois pour cause de campagne électorale, mais espérait bien passer la vitesse supérieure une fois l'élection passée. Résultat, Donald Tusk est en passe de rejoindre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz dans le club des colosses aux pieds d'argile, à l'initiative sur la scène européenne, fragile sur le plan intérieur. Pas de bon augure pour le leadership européen face à l'agressivité russe et au désengagement américain.
Louise Baudet, merci beaucoup. À demain. Le lundi, c'est Cyril Sauvageau qui écoute la musique que fait le monde en tournant. C'est la BO du Monde.
France Inter. Le 18-20.
Où il est question, Cyril, ce soir du boss. Vous revenez sur le clash du week-end entre Donald Trump et Bruce Springsteen. En tournée en Europe, la star du rock américain a décidé de hausser le ton face à la politique de l'administration Trump et ça plaît pas du tout aux locataires de la Maison Blanche.
Good evening.
Bruce Springsteen avait prévenu, il avait des choses à dire sur l'état de son pays. À l'occasion de cette tournée d'une quinzaine de dates en Europe, il a tenu parole dès son premier concert à Manchester avec des sorties saignantes comme celle-ci.
Mon pays, cette Amérique que j'aime, sur laquelle j'ai écrit, cette Amérique qui symbolise l'espoir et la liberté depuis 2 siècles et demi est actuellement entre les mains d'une administration corrompue, incompétente et perfide.
Extrait d'un copieux discours de 5 minutes en ouverture du concert où Springsteen s'en prend à Trump, aux hommes richissimes qui l'entourent, à son alliance avec les dictateurs et le mal qu'il inflige aux travailleurs américains. Pour appuyer le propos, une setlist quasi thématique, on devrait la retrouver sur l'ensemble de la tournée qui passera en fin de semaine par Lille puis Marseille. Le boss est allé puiser dans son répertoire les chansons les plus sombres comme My City of Ruins, ce titre à la tonalité gospel qu'il avait chanté pour New York après le 11 septembre. La réaction de Donald Trump n'a pas tardé. D'abord, un long message rageur sur son réseau Truth Social où il traite le chanteur de vieux pruneau desséché qui ferait mieux de la fermer. Et la polémique continue. Le président américain réclame maintenant une enquête pour savoir si Springsteen n'aurait pas monnayé son soutien à Kamala Harris pendant la dernière campagne.
Et Cyril, si Trump s'est empressé de réagir, c'est aussi parce que Springsteen incarne quelque chose de bien particulier, y compris pour son électorat.
Oui, même s'il est engagé de longue date côté démocrate, et ça bien avant Kamala Harris, Bruce Springsteen reste très apprécié dans cette Amérique blanche des classes moyennes et populaires où sa musique trouve encore un écho profond. Pourquoi ? Parce qu'il a su mieux que quiconque raconter dans ses chansons l'Amérique des sans-grades et des travailleurs.
Et que dire du fameux Born in the USA, énorme succès des années 80 récupéré par la droite américaine qui a voulu y voir à l'époque un hymne à la gloire d'une Amérique triomphante, alors que c'était une chanson sur les vétérans du Vietnam et leur traumatisme.
Voilà, faut écouter un tout petit peu plus que le titre. On pourrait se dire en tout cas que Springsteen est dans son rôle et pourtant cette nouvelle croisade anti-Trump ne fait pas l'unanimité chez les fans.
Effectivement, il y a débat, le boss n'en fait-il pas trop avec ses discours à rallonge, son choix de chanson un peu plombant, là où les fans veulent avant tout faire la fête et en avoir pour leur argent. Tout ça ne risque-t-il pas d'être contre-productif et qui peut croire que ces prises de parole feront bouger les lignes dans ce pays si divisé? Le chanteur sait pertinemment qu'il ne changera pas le cours des choses, mais cette croisade lui ressemble. Au fond, c'est la suite logique de son engagement et de sa foi éternelle dans le rêve américain, ce rêve qu'il estime aujourd'hui piétiné par Donald Trump et sa politique.
Bon de se quitter sur Land of Hope and Dreams. Merci beaucoup Cyril Sauvageau, à lundi prochain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h. Avec Hélène Philly, juste après le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir on essaie de comprendre quelle eau on peut encore boire en France.
On parle évidemment du scandale Nestlé Waters, de l'eau en bouteille, mais on élargit. Alors on a Magali. Les vendeurs d'eau ne sont que des fabricants de bouteilles en plastique à usage unique. Je ne comprends pas pourquoi ce commerce est encore autorisé, ça c'est fait. Perrine, moi, c'est une question qui me taraude. Je ne vois pas comment on ne peut pas avoir de produits phyto dans les eaux du robinet, étant donné qu'on peut épandre dans les champs au-dessus du captage. Enfin, Claude, ironique, à Grenoble, l'eau du robinet est issue de la nappe réputée la plus pure de France. Cette nappe, est située en aval et à 500 mètres de la nappe réputée la plus polluée de France. Comment expliquer ce miracle grenoblois de partage des eaux?
Allez, 01 45 24 7000 pour discuter avec nous. C'est le même chemin pour vos pouces par WhatsApp.